Bienvenue à cet autre épisode spécial du petit cours d'histoire mondiale consacré à mon traditionnel top 10 des découvertes archéologiques et historiques de l'année. 2024 aurait été une année marquée entre autres par une grande diversité de fouilles, plus que par les années précédentes en fait, qui ont permis d'enrichir nos connaissances, notamment dans le domaine militaire, et là, toute époque confondue, mais aussi sur différentes techniques d'architecture, certaines étant très anciennes, ou sur les origines ethniques de plusieurs peuples. 2024 aura aussi été une autre année importante en ce qui concerne les restitutions d'artefacts à divers pays. Certains ont fait partie de collections qui ont été acquises par le pillage colonial au 19e siècle, mais d'autres littéralement saisies par les corps policiers parce qu'exhumées illégalement sur des sites archéologiques. Et il y a eu plusieurs cas cette année. Les conflits et les guerres au Soudan, en Ukraine et au Moyen-Orient, entre autres, ont continué à mettre en péril plusieurs sites archéologiques uniques au monde. Et l'intelligence artificielle, quant à elle, était derrière plusieurs falsifications d'archives photographiques. Et à cet égard, la pseudo-archéologie reste toujours un danger du point de vue des connaissances scientifiques. Et certaines nouvelles diffusées cette année dans les grands médias auraient mérité qu'on attende les réactions des spécialistes avant d'être diffusées, comme cet article paru étonnamment dans la revue Plus One sur la possibilité d'ascenseurs hydrauliques pour la construction de pyramides en Égypte. Plus que jamais. Allez, les lecteurs, nous devons être prudents. Finalement, les fonds marins continuent d'être abondamment explorés et plusieurs épaves de différentes époques ont été dévoilées au cours de l'année. Et il faut dire que la technologie LIDAR, qui est la télédétection par laser, continue de révéler des sites inconnus et inexplorés. Passons maintenant à notre top 10 en commençant par la 10e position. Elle revient à une chambre funéraire celte mise au jour en Allemagne. Vous le savez si vous me suivez depuis plusieurs années, mais les découvertes de tombeaux abondent à chaque année. Mais cette fois-ci, les archéologues ont mis au jour une chambre funéraire qui est unique du point de vue de la conservation parce qu'elle est en bois. Elle est datée de 2600 ans et elle a été découverte sous un tumulus et sa structure de bois est presque entièrement intacte. Et ça, c'est extrêmement rare, surtout pour le climat de l'Allemagne. On sait que le mobilier y a été pillé, possiblement peu de temps après la fermeture du tombeau, mais les archéologues sont convaincus qu'il s'agit de la sépulture d'un prince celte, parce que la qualité de la chambre funéraire elle-même nous donne de bons indices. Là, c'est très gros. Elle fait 3,4 mètres de large, 4,05 mètres de long, mais c'est surtout qu'elle est faite de gros madriers en chêne massif et le plafond a été renforcé par d'autres planches de bois encore plus longue pour supporter en fait le tumulus très lourd, en fait de plus de 65 mètres qui se trouve au-dessus. Alors, conservation exceptionnelle, ça méritait une place dans notre top 10. Alors, en 9e position, des analyses d'ADN permettent d'identifier un membre de l'expédition Franklin. C'est un coup de théâtre cet automne parce qu'on a annoncé l'identification officielle de John Gregory, qui faisait partie de l'équipage du HMS Erebus, un des deux navires de l'expédition Franklin. Ce sont des chercheurs de trois universités ontariennes, Waterloo, Lakehead et Trent, qui ont travaillé ensemble sur les analyses et qui ont pu confirmer l'identité de celui qui était un ingénieur de bord sur l'Erebus. Et ils y sont parvenus parce qu'ils ont réussi à faire correspondre, en fait, l'échantillon d'ADN de son seul aïeul qui vit en Afrique du Sud avec de l'ADN qui avait été extrait sur des dents et des os récoltés sur l'île du roi Guillaume au Nunavut, et ça, c'était en 2013. Il y a d'autres identifications formelles qui vont peut-être être possibles aussi dans les prochaines années. En 8e position, une peinture rupestre d'au moins 50 000 ans identifiée en Indonésie. Les nouvelles technologies utilisées pour dater de très anciens pigments sont en train de transformer complètement nos conceptions quant au début des premières œuvres d'art pendant la préhistoire, et c'est en train de faire reculer de plus en plus les datations. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et cet été, des chercheurs de l'Université Griffith ont publié les résultats de leurs analyses sur deux œuvres peintes sur des parois rocheuses en Indonésie. Ils ont utilisé une technique qu'on appelle l'ablation au laser pour y arriver. Elle permet de dater différentes couches de minéraux qui se sont comme agglutinées en fait sur la peinture au fil du temps. Alors, c'est pas tant la peinture en fait qu'on va dater, mais plus la couche de minéraux. Les chercheurs ont réussi à accéder à la couche la plus proche de la peinture et donc à déterminer assez finement son âge minimum. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Alors, la première œuvre qui a été analysée, elle était déjà connue parce qu'elle avait été datée d'environ 44 000 ans en 2019. Et là, il y a des analyses qui ont pu être refaites et on est rendu à 48 000 ans pour cette œuvre-là. Et ensuite, on est passé à une nouvelle scène qu'on a connue connaissez pas, qui est une scène qui semble être une chasse aux cochons, qui a été peinte avec des pigments rouges, et les datations sont encore plus anciennes parce que là, on arrive à 51 200 ans. Alors, les probabilités de trouver des restes de peinture narrative, parce que ça raconte une histoire quand même de chasse, comme cette œuvre-là, et donc peut-être des datations plus anciennes, sont très grandes pour les prochaines années. Alors ça, c'est à suivre. En septième position, la découverte d'une photo inédite montrant Winston Churchill et sa famille prise sur le bord du lac des Neiges à l'été 1943. Et oui, allons maintenant au Québec et parlons d'une découverte étonnante, il faut dire fascinante, d'archives photographiques. Ce sont deux Québécois, Mme Ginette Forcier et M. Michel Bernier, qui ont récemment remis deux documents uniques et inconnus, c'est ça qui est le plus incroyable, à la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc le premier document, ben, c'est une photographie qui montre très clairement Winston Churchill, sa femme Clémentine et possiblement leur fille Mary, qui a été prise sur le bord du lac des Neiges à l'été 1943. Et quand on regarde la photographie, c'est indéniable, on voit très très bien M. Churchill qui est assis dans une chaise et qui fume un de ses célèbres cigares. Et la qualité de la photo est vraiment exceptionnelle. L'autre document, ben, c'est un registre signé de la main même du légendaire premier ministre britannique. La photo se trouvait entre les pages du registre des entrées du chalet du lac des Neiges et il a été sauvé, en fait, de la destruction du chalet en 1972 par ses deux employés, Mme Fortier et M. Bernier. Alors, il s'agit d'archives historiques majeures parce qu'elles seraient, pour l'instant du moins, les seules à documenter le passage officiel de Winston Churchill au lac des Neiges au mois d'août 1943 à la suite de la célèbre conférence de Québec. En sixième position, des dessins de gladiateurs de même qu'un tombeau dévoilés à Pompéi. C'est difficile de passer outre le site de Pompéi encore cette année parce que les fouilles y sont constantes. Il faut dire que la communication des découvertes est vraiment efficace, notamment sur les réseaux sociaux. Deux découvertes ont particulièrement retenu l'attention en 2024. La première, c'est la découverte d'un tombeau, ce qui est plus rare que les vestiges d'habitation pour le site. La sépulture semi-circulaire, qu'on peut penser un peu comme une espèce de demi-théâtre, a été découverte par hasard, en fait, par des ouvriers qui travaillaient sur le site de la bibliothèque de Pompéi. Et après lecture des inscriptions et des analyses, eh bien, on a compris qu'il s'agissait du tombeau d'un soldat qui a servi en Espagne sous le règne du premier empereur romain Octave Auguste. Le nom de ce soldat est Numérius Agrestinus Equitius Pulchère et il a reçu plusieurs titres honorifiques au cours de sa carrière militaire. En fait, il faut dire qu'un tombeau comme ça, à l'époque, ça n'aurait pas pu être construit pour un simple paysan ou même un propriétaire de villa. Ça prend quelqu'un qui s'est vraiment démarqué et ça semble avoir été le cas. Toujours à Pompéi, eh bien, il y a des dessins d'enfants aussi qui illustrent des combats de gladiateurs qui ont été mis au jour cette année. Et là, on voit vraiment que c'est des petites esquisses au fusain réalisées de manière très simple, on pourrait même dire un peu naïve, qui ont été découvertes sur le mur d'une maison qui est connue sous le nom du Cénacle à Colonnade. Et après les analyses, ben, on estime que ça a probablement été réalisé par des enfants âgés de 6 à 7 ans. Comme quoi, même à l'époque romaine, les dessins standards, on va dire, selon les âges, peuvent se ressembler. En cinquième position, la découverte des vestiges d'une résidence de repos, possiblement pour les troupes du pharaon Thoutmose III en Égypte. Il n'y a pas que des découvertes de tombeaux qui soient dignes de mention en Égypte, en fait. Bien que Ramsès II, il faut le dire, soit le pharaon le plus connu et qui a le plus marqué l'imaginaire, il n'en demeure pas moins que dans l'histoire de l'Égypte pharaonique, et ça on va le voir dans nos prochains cours, Thoutmose III a été un des grands dirigeants. Il y a des égyptologues, en fait, qui fouillaient dans la région du Sinaï sur un site qu'on appelle Tel Abois, qui ont récemment dégagé les vestiges de ce qui semble avoir été une résidence qui pourrait bien avoir été un espèce de lieu de repos à l'époque pharaonique. Ils ont fait des analyses et ils en sont venus à la conclusion que le bâtiment devait abriter des troupes militaires et très possiblement un pharaon lorsqu'il s'arrêtait dans la région. Et ça, c'est grâce à la structure du bâtiment là, qu'on avait une bonne idée que ça servait de lieu de repos. Et ils ont réussi à le dater de l'époque du Nouvel Empire et même plus précisément, selon les indices qu'on y trouve, du règne de Thoutmose III. Et des vestiges comme ça à cet endroit sous son règne, ben c'est logique parce que Thoutmose III est reconnu pour les stratégie militaire, davantage offensive pour mieux protéger son royaume. C'est lui qui a affronté divers souverains et chefs de territoire le long du couloir syro-palestinien pendant son règne. D'autres analyses sont toutefois nécessaires pour établir cette hypothèse parce que certains artefacts découverts sur le site qui semblent peut-être postérieurs au règne de Thoutmose III, qui lui a régné là, entre 1479 et 1425 avant notre ère. En quatrième position, la découverte d'une salle du trône construite pour une reine Moche au Pérou. Les traces de femmes de pouvoir en Amérique du Sud, en Amérique centrale, sont assez rares. Alors voilà pourquoi la découverte d'une salle du trône, possiblement construite pour une reine de la civilisation Moche, a fait couler beaucoup d'encre et c'est la raison pour laquelle elle se trouve aussi en quatrième position. Parce qu'en effet, au mois de juillet, il y a une équipe d'archéologues péruviens et américains qui fouillaient un site Moche de Panamarca, qui est situé sur la côte nord du Pérou. Et ils y ont dégagé ce qui semblait être une espèce de salle du trône, avec des piliers, des décorations, des fresques, des ornements. Mais il y a même le trône, en fait, qui a été découvert, un trône de pierre. Et tout ça laissait penser que ça aurait pu être le siège du pouvoir d'une femme il y a plus de 1300 ans. Mais est-ce qu'on parle d'une reine, d'une princesse, d'une prêtresse? C'est peut-être trop tôt pour l'affirmer hors de tout doute. Mais il faut dire que les peintures, les reliefs qui ont été présentés sous forme de photos et qui ont été mis au jour sont uniques. Il y a 4 scènes différentes qui nous montrent une femme puissante, associée à la lune, à la mer. Et on la voit, entre autres, assise sur un trône qui reçoit des visiteurs. On a une autre scène qui illustre un atelier de femmes, et ça, c'est fabuleux, en train de filer et de tisser. Et une autre scène qui montre une procession d'hommes qui portent des textiles et ce qui semble être une couronne constituée, entre autres, de tresses. Alors, les fouilles se poursuivent et on espère en apprendre davantage sur cette femme puissante en 2025. En troisième position, une selle de 2700 ans découverte dans une tombe en Chine. Il y a beaucoup de fouilles archéologiques en Chine et en Mongolie cette année, et il y a une découverte en particulier, ne serait-ce qu'en raison de sa rareté, qui mérite sa place dans le palmarès. Il s'agit de la tombe d'une femme qui a été mise au jour dans le cimetière de Yangai. On est à la frontière du désert du Taklamakan, dans le nord-ouest de la Chine, que les archéologues ont dégagé une selle faite de morceaux de cuir cousus ensemble et qui sont rembourrés avec de la paille et des poils d'animaux. Et là, le fait remarquable, c'est qu'elle est en très bon état, et ça, c'est grâce à l'aridité de la région désertique où elle se trouvait. Il faut dire aussi que c'est dans ce cimetière-là qu'on a découvert la plus ancienne paire de pantalons de cavaliers du monde il y a quelques années. Alors, il y a vraiment une qualité de préservation, même des artefacts en cuir dans cette région. Alors, ces artefacts rarissimes commencent à mieux nous aider à comprendre l'évolution des techniques d'équitation dans cette région du monde pendant l'Antiquité, et ça, c'est assez unique. Et en deuxième position, la découverte de passages inédits de deux pièces disparues d'Euripide. 2024 a été marqué par une découverte papyrologique d'importance liée à cet auteur de théâtre. Et ça crée quand même, je dirais, beaucoup d'émotions. Parce qu'il faut dire que cet été, il y a deux chercheurs de l'Université du Colorado qui nous ont surpris avec cette annonce de la découverte d'un papyrus qui avait été réalisé en 2022. Dans une tombe égyptienne du 3e siècle de notre ère, dans la région du Fayoum. Il faut dire que c'est pas rare, ça, en fait, que des gens lettrés des époques grecques et romaines en Égypte aient, en fait, des bibliothèques de classiques. On a retrouvé plein de fragments de l'Iliade et de l'Odyssée, entre autres, en Égypte. Et là, eux ont analysé, en fait, le papyrus en question. Et ils en sont venus à la conclusion que c'était exceptionnel, parce qu'il contiendrait des extraits inédits, donc inconnus, de deux pièces lacunaires d'Euripide que sont Polyidius et Ino, et qui aurait été écrite au 5e siècle avant notre ère. C'est la papyrologue Ivona Tranka Amreng qui est parvenue à déchiffrer au départ 98 lignes du document, et ça prend quand même du temps, là, c'est écrit à la main, l'encre n'est pas toujours égale, il faut toujours quand même être certain en fait de ce qu'on lit aussi, ce qu'on déchiffre. Et après sa recherche, elle a réalisé qu'elle avait sous les yeux des extraits inconnus d'au moins une pièce de théâtre d'Euripide. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé un des logiciels les plus communs maintenant là, pour croiser les données littéraires, et le logiciel a reconnu 22 lignes et les a tout de suite attribuées à Euripide. Mais pour les 76 autres, c'était sans correspondance et donc inconnu. Alors, elle a fait appel à un autre spécialiste de la tragédie grecque, qui est John Gebert, c'est un de ses collègues, en fait. Elle a même dit son mentor. Et ils sont arrivés tous les deux à la conclusion que ce sont des extraits de deux pièces de théâtre d'Euripide qui se trouvent sur ce papyrus. Polyidius et Ino, on les connaît, ces pièces-là, parce qu'elles font partie de ce qu'on appelle des pièces de théâtre fragmentaires. Donc, on n'a jamais eu au complet, qu'on appelle des fois aussi des tragédies perdues. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est que, contrairement à d'autres pièces de théâtre de l'Antiquité grecque, elles ne nous sont jamais parvenues en entier parce qu'elles n'ont pas été transcrites et conservées au complet dans des manuscrits médiévaux. Alors, c'est toute une découverte, ça, dans le monde de la littérature grecque antique, et ça mérite la deuxième position. Et la première position revient à un masque de jade maya qui a été découvert au Guatemala. La découverte est rare et l'objet absolument magnifique. Et c'est la raison pour laquelle la première position de ce palmarès de 2024 revient à la découverte d'un masque en mosaïque de jade maya. On dit mosaïque parce qu'il y a plein de morceaux de jade en fait qui composent le masque et on a utilisé des coquillages pour faire les yeux et les dents. L'ensemble est époustouflant, je vous dirais même émouvant. Et ça, ça a été découvert grâce à la technologie LIDAR qui avait permis l'identification et les fouilles d'une sépulture dans une pyramide royale à Chichén Chiquitame, au Guatemala, et même si la tombe avait été pillée, il restait encore des restes humains et des offrandes à l'intérieur. Les archéologues ont pu identifier le tombeau comme celui d'un roi maya parce qu'ils ont réussi à déchiffrer le nom Itzamcoatzacoalam sur les os gravés découverts. C'est-à-dire qu'on a gravé le nom du souverain sur des ossements. Est-ce que ce sont les siens? C'est encore à confirmer, mais c'est une possibilité. Et il gouvernait probablement Choquitam vers 350 de notre ère. Les archéologues pensent que le masque pourrait représenter une divinité maya associée aux tempêtes, parce que c'est assez fréquent, en fait, que les masques de jade représentent pas uniquement des souverains, mais souvent, en fait, des divinités. Alors, 2025 promet d'être une année riche en découvertes, comme toujours, et en analyses de toutes sortes, et on souhaite que les guerres et les changements climatiques n'endommagent pas davantage les sites archéologiques et historiques. Je vous dis à bientôt pour un cours régulier, et je vous souhaite une belle et heureuse année 2025.